RFI, as vozes do mundo.
Le goût du monde.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est Le goût du monde.
Avec Clémence Denavy.
Bonjour Jean Covillot, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue à notre table, vous êtes cuisinier. On vous a découvert à la télévision dans l'émission Top Chef. Vous avez été candidat de la saison 14, candidat bien aimé et que l'on a gardé en mémoire, une popularité qui vous aide à mettre sur pied des projets qui vous tiennent à cœur, avec au centre la table et un fil conducteur, une cuisine simple. Et si on sortait, Jean ? Enfin, je ne sais pas vous, mais voilà une petite question qui me fait plaisir moi quand je l'entends. Et si on sortait ? Aller au restaurant, au maquis, au bistrot, la table repérée par un ami, est-ce que tu y es déjà allé? C'est quand même totalement réjouissant, cette perspective.
Alors, c'est ce que j'essaye de faire dans mes résidences, que les gens viennent pour passer un moment et s'amuser, et pas que se nourrir. Et ça, c'est très important, et c'est un peu marrant, je trouve que c'est un peu prendre le pied, je veux que les gens viennent sans foncièrement qu'ils attachent une importance particulière à ce qu'ils mangent, mais juste qu'ils repartent en souriant, en ayant passé un bon moment, en se disant « j'ai vraiment passé une bonne soirée ».
C'était déjà le principe un petit peu de votre premier restaurant, non ? Courbouillon. Alors c'est rigolo, vous êtes quelqu'un qui aime bien que ça bouge. Hein.
Ah ouais,
alors Courbouillon, un restaurant qui a duré 3 mois. Et l'idée c'était quoi ?
Alors ça a duré 3 mois, pas parce que je l'ai craché, hein, parce que c'était volontaire.
C'était l'idée.
C'est que, voilà, je trouve que j'ai besoin d'apprendre, je suis très curieux et j'ai vraiment besoin d'aller chercher des nouvelles choses. Et le fait d'avoir des nouveaux projets, ça permet de sans arrêt se remettre en question. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de donner aux gens ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a pas marché ? Et ça permet de... Voilà, je trouve que quand on a trop la tête dans la routine, c'est compliqué de lever le nez un petit peu et de se dire... Enfin, où est-ce que je vais avec ça et est-ce que je peux mieux faire? Et à travers tous ces projets différents, eh ben, j'apprends sur moi, sur ce que j'ai envie de faire et je trouve que j'arrive petit à petit à être plus précis dans ce que j'ai envie de donner aux gens à travers les expériences qu'on fait avec mon associé Paul Saulnier qui lui s'occupe de la salle et on se marre de plus en plus.
Donc vous affinez de plus en plus. Alors maintenant, depuis 3 mois, il y a des restes.
C'est ça.
Qui porte bien son nom, puisque
qu'est-ce
vous cuisinez des restes.
Exactement.
Mais en l'occurrence, ça porte pas bien son nom, puisque c'est pas vraiment des restes, mais plutôt des invendus alimentaires. D'où vient ce déclic? Parce que c'est pas commun d'ouvrir un restaurant qui sert des invendus alimentaires, et à un prix quand même.
Alors, à travers mes dernières résidences, j'avais vraiment envie de proposer des choses très accessible pour que tout le monde puisse venir et que ce soit pas une question de prix. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire le menu le moins cher que je puisse. Et j'ai commencé à réfléchir, à me dire, tiens, comment je peux essayer de tourner le problème pour réussir à proposer quelque chose de hyper accessible et que tout le monde pourrait s'offrir une ou deux fois par semaine sans forcément se serrer la ceinture particulièrement. Et à force de tordre un peu le problème dans tous les sens. Il y a eu une petite coïncidence. Je regarde jamais la télé, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quelle magie. Je suis tombé sur un documentaire qui s'appelle Sur le front, animé par Hugo Clément. Et j'ai redécouvert un petit peu le gaspillage alimentaire. Et
donc c'était consacré au gaspillage alimentaire.
C'était consacré au gaspillage alimentaire, mais le gaspillage alimentaire invisible que les gens ne voient pas parce que le gaspillage alimentaire qu'on connaît, c'est le paquet de salade qui est un peu flétri au fond du frigo quand on finit pas dans son assiette. Et en fait, ce gaspillage alimentaire dont il était sujet dans l'émission, c'était le gaspillage alimentaire en amont, au niveau des grandes surfaces, au niveau du système de distribution. Et avant même que nos produits arrivent en magasin, il y avait un gaspillage qui était énorme. Et ça, les gens le voient pas et s'en rendent pas foncièrement compte. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de parler de ça parce que c'est un sujet qui me touche. Je viens d'une famille, enfin aisée, et on n'a jamais, j'ai jamais grandi dans le besoin. Mais c'était vraiment hyper important pour nous de ne pas jeter. Et c'était vraiment une valeur et un principe plus qu'un besoin. Et ça, j'ai vraiment gardé. Et je me suis dit, mais tiens, mais c'est quelque chose que je fais naturellement. Je vais essayer de l'implémenter dans une de mes résidences. Et comme ça, je pourrais aller chercher les produits que personne ne veut et réussir à les faire manger et les gens se rendront même pas compte que à la base c'est des produits que personne ne voulait et des choses qu'on laisse un petit peu sur le côté, quoi.
Alors, beaucoup d'informations, là, en l'espèce de quelques minutes, quand même.
Ah là, c'est dense.
Alors, on a le gaspillage alimentaire. Quelques chiffres, peut-être. Chaque année, on estime à peu près 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire. Tout n'est pas du gaspillage que l'on pourrait manger. La moitié, à peu près, c'est des invendus qu'on pourrait manger. Et c'est déjà énorme. Et une grande partie de ce gaspillage, ce sont les foyers. Et une autre grande partie, évidemment, c'est au niveau de la production même de ce qui va être gaspillé. Et même, parfois, on l'a vu dans certaines grandes industries, dans l'industrie agroalimentaire, c'est même presque calculé, en fait, cette surproduction qui provoque ce gaspillage alimentaire. Après, il y a cette culture culinaire dont vous nous parlez, qui est une culture familiale. Si on apprenait chez vous à cuisiner, justement, pour ne rien gaspiller ou à acheter en conséquence, parce que tout cela fait qu'on gaspille moins après.
Alors, je rajoute juste un petit chiffre, parce que c'est important, parce qu'en fait, là, vous avez dit 10 millions. 10 millions, c'est difficile de se rendre compte. Et en fait, un chiffre qui est hyper parlant, je trouve, c'est que un tiers de la nourriture qu'on produit est gaspillée. C'est-à-dire qu'en fait, genre, quand vous remplissez votre frigo, un tiers de votre frigo part à la poubelle dans toute la chaîne de production, et je trouve que ça, c'est assez parlant. Et si on réfléchit un minimum, en fait, si on se dit si c'est un tiers, ils n'étaient pas gaspillés, ça veut dire qu'on pourrait travailler un tiers de moins, tous les produits seraient un tiers moins chers. Mais c'est ça qui, moi, m'a vraiment choqué.
Choqué.
Parce que je me dis, là, il y a vraiment un énorme domaine sur lequel on peut travailler.
Et c'est sur la scène internationale aussi, parce que dans bien des pays du monde, c'est le cas, y compris dans les pays où il y a une difficulté d'accès à l'alimentation.
C'est ça. Il y a des gens qui meurent de faim et il y a des gens qui gaspillent énormément, en fait, c'est pas.
Et parfois même dans le même pays.
Exactement. Et ça, c'est pas. Je pense que tout être humain normalement constitué, si on lui donne ce genre d'informations avec un minimum, genre d'explication, il peut pas rester indifférent à ça, et on peut pas dire ah ben oui c'est normal. Et je veux pas que le geste de jeter, ça devienne machinal et normal.
C'est ça qui est très important. C'est cette normalité dans l'idée de jeter. Pendant des années, on en a été choqué, on a culpabilisé, et maintenant, c'est devenu normal.
Oui, c'est normal et instrumentalisé financièrement, et c'est ça qui est assez dingue.
Ces invendus alimentaires, comment est-ce que vous avez fait, vous, déjà pour vous en procurer, et où est-ce que vous vous approvisionnez? Alors, c'est le paradoxe de l'affaire, c'est que vous allez vous approvisionner en invendus alimentaires.
Exactement.
Alors, comment ça se passe?
Alors, ça, en fait, c'est quelque chose qui peut se faire de manière assez simple dans la restauration, parce que notre fournisseur de fruits et légumes, on peut l'appeler en lui disant « Écoute, est-ce que tu as des trucs un peu moches ou avec des DLC courtes ?»
Les DLC étant
date limite de consommation.
Merci.
Et généralement, ils en ont un petit peu tout le temps. Mais à travers mon travail, c'était beaucoup trop d'organisation et j'avais besoin d'un peu plus de constance dans mes approvisionnements. Et donc, je me suis rapproché de gros acteurs de cette économie, de l'anti-gaspi, et j'ai envoyé, comme ce que je fais d'habitude, je propose, j'envoie des mails. Voilà, je dis coucou, c'est moi, ceux qui veulent, vous pouvez adhérer au projet. Et j'ai envoyé un mail à Nous Anti-Gaspi. Donc c'est une chaîne d'épiceries qui se fournissent uniquement dans des filiales d'anti-gaspillage et qui proposent des épiceries avec que des produits issus du gaspillage alimentaire. Et eux ont été mes chauds patates directes pour ce projet. Et ils m'ont suivi en me disant, mais ils ont été assez sensibles au fait de combattre et de sensibiliser le gaspillage alimentaire, mais à travers un projet éducatif, fun.
Et pas culpabilisant, aussi, pas moralisateur.
L'idée, c'est pas que ce soit moralisateur, c'est juste de s'en amuser et de se dire, ben voilà, comment Jean y fait pour faire un menu 22 euros entrée plat dessert? Et ben en fait, c'est que je prends des produits que personne ne veut et qui sont destinés à aller à la poubelle.
Ces produits que personne ne veut, juste, vous avez dit, date limite de consommation qui approche, donc on ne va pas l'acheter. Des produits moches, des fruits, des légumes avec une sale tête. Quoi d'autre encore?
Alors, c'est un restaurant et je vends des menus, donc il y a des règles d'hygiène et je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, les dates limites, c'est vraiment des choses que j'utilise peu. Parce que problème de DLC, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les choses qu'on peut utiliser, par contre, c'est tous les fruits et légumes moches, les viandes qui sont pas calibrées, c'est-à-dire un filet de poulet trop petit, des morceaux de viande qui font pas la bonne taille, des boudins qui sont un peu trop petits, qui sont pas au poids, mais des histoires de produits comme ça, il y en a 50. Et il y a aussi énormément de produits qui sont issus de la surproduction. C'est-à-dire que des producteurs doivent s'engager à délivrer une certaine quantité. S'ils ne délivrent pas cette certaine quantité, ils ont des malus qui peuvent être assez importants.
Donc des pénalités.
Des pénalités. Et donc, ils préfèrent surproduire et en fait, jeter à la poubelle ces 5% de production supplémentaire plutôt que de produire juste et en fait de potentiellement de temps en temps ne pas être au volume, mais là de se prendre une pénalité.
Il y a quelque chose aussi dont vous m'avez parlé en préparant cette émission, c'est on change les empaquetages, on change l'étiquette, on change le logo, on change la forme de la bouteille.
Exactement.
Et ça, donc, du coup, ça devient un invendu puisqu'on ne peut plus vendre.
C'est ça.
Qui va changer de
tête. La marque dit nouvelle direction artistique, on a changé nos packaging, donc tous ces produits, on n'en veut plus. Même si ils ont été produits parce que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, tout ça, à partir de maintenant, on ne met plus ça en rayon et en fait, on reste avec des stocks de produits sur les bras que les enseignes ne veulent pas mettre en magasin pour question de direction artistique. Enfin, et ces produits, qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, on les jette à la poubelle juste parce que le paquet ne correspond pas à ce que les gens veulent. Donc, si les gens veulent acheter leurs produits plein pot pour avoir les beaux logos, fine. Moi, je me dis, je préfère acheter mes produits deux fois moins cher. Et si le logo est pas bon, c'est pas grave. Parce que, étant donné que j'ai cuisine, les gens vont pas s'en rendre compte de la tête du paquet, quoi.
Et alors, c'est ça le pari que vous avez décidé de relever. C'est donc dans votre cuisine, vous avez tous ces produits, des invendus alimentaires, et vous allez en faire quelque chose de bon, qu'on va servir au restaurant. Je vous propose d'écouter juste Haroun Asso, qui est le chef des cuisines de l'association Refugee Food, qui est réfugié mauritanien, lui a été complètement révolté et choqué par le gaspillage alimentaire quand il est arrivé en France. À ses débuts, au restaurant d'un grand hôtel à Paris, il raconte.
Pourquoi commander autant de produits alors qu'il y a des produits qu'on jette avec les commerciaux? Dès que je les appelais, je les demandais, est-ce que vous avez un surplus de tels produits, ou si vous avez des produits en promotion, en vendre, on achète même si c'est le même prix, pourquoi vous demandez ça? Je dis, je connais le mot derrière, si ce n'est pas vendu, demain c'est à la poubelle ou sinon banque
alimentaire. Et ça, ce n'est pas possible pour vous, surtout venant d'un continent où on a l'habitude de manger tout le produit.
La patate douce, pour moi, on ne devrait pas l'éplucher. Pour la patate douce, c'est une petite histoire. Quand j'ai commencé à faire la cuisine, j'ai commencé à faire certains plats pour faire des testings. Et du coup, on avait des patates douces que je les mangeais crues. Et tout le monde me rigolait, me dit, mais regardez, ils mangent de la patate douce crue. Et il y a une fois, le sous-chef, il m'a appelé, il me dit, mais Haruna, tu sais, on mange pas de la patate douce crue. Mais j'ai dit, bien sûr, chef, on mange de la patate douce crue. Vous voulez goûter? Il me dit, ça va pas. Je vous conseille de les goûter crues, vous allez voir. J'ai attendu le jour de mon testing. J'ai fait une julienne de patate douce. Et arrivé autour de la table, j'ai expliqué ce que j'ai fait. Ils ont goûté, ils m'ont dit, waouh.
Alors, patate douce crue, vous avez goûté?
Je vais vous faire rire, mais figurez-vous que j'ai une même histoire avec un produit issu de base de pommes de terre. Et là, vous allez dire, je ne savais même pas que ça pouvait se consommer. Quand je bossais au Grand Plaza Neuilly, c'était dans un
hôtel.
C'est ça, qui était à Neuilly, qui a fermé depuis. Mais moi, je m'entendais vachement bien avec mes collègues plongeurs qui étaient issus majoritairement de culture africaine. Et je cuisais des pommes de terre à l'eau avec un petit peu de sel. Et à un moment, Jawad, qui travaille encore avec moi, avec qui on rigole énormément, il prend l'eau des pommes de terre, il la met dans une tasse, il commence à la boire. L'eau de cuisson des pommes de terre. Et je lui dis, mais ça se boit, ça? Il me dit, bah ouais, tiens, vas-y, j'en goûte. Et donc, j'ai goûté de l'eau de cuisson des pommes de terre, chose que je jetais depuis 25 ans. Et en fait, c'est très très bon et c'est hyper nourrissant. Et donc, j'ai cette même histoire. Et je trouve que c'est important ces échanges culturels parce que ça fait vachement réfléchir et ça remet un petit peu en cause nos croyances. Et on se dit, mais en fait, c'est vrai, pourquoi on fait comme ça? Est-ce qu'on fait vraiment bien, entre guillemets? Et ça permet, d'aller plus justement dans sa façon de cuisiner et de se renouveler, d'approfondir. Et moi, j'adore vraiment utiliser ce côté...
Curiosité
et remise en question de sa façon de voir les choses.
snow lam lam. Abba ba ya shoy lam lam. Abba ba ya lam 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 lam. Addis Ababa snow lam lam. Abba ba ya shoy lam lam. Addis Ababa metta adarasan kwan. Fikrin izo badas destawn badin kwan. Addis Ababa metta edme leta taman. Kufu kufu karto. Tendino, Yisamakaruk, Hota Faro, and Hidabran, Wededan Kiro, Zara di Selet, Negata Spano, Balata Desert, Hiwatendino, Yisamakaruk, Hota Faro, and Hidabran, Wededan Kiro.
Lem, lem, lem de Koutou, on adore. Merci à l'équipe de la playlist de RFI qui sélectionne ainsi chaque semaine et chaque mois ces pépites musicales. Vous nous rejoignez, bienvenue. Vous écoutez Le Goût du Monde avec un cuisinier déterminé à remettre l'essentiel au centre de l'assiette. Une cuisine simple, bonne, engagée. Jean Covillot montre qu'il est possible de réduire le gaspillage alimentaire et son impact environnemental, du coup, tout en cuisinant de bons petits plats. Avec le sourire. Et d'aller au resto pour 22 euros à Paris, ce qui, on doit quand même l'admettre, n'est pas très fréquent.
C'est rare.
Alors, est-ce que c'est une question de responsabilité du cuisinier dans notre rapport à l'alimentation que vos projets ?
Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je considère et je pense que les chefs ont un rôle à jouer vis-à-vis de la société sur l'alimentation.
Surtout quand on a la lumière, enfin, vous en l'occurrence, oui. Vous profitez aussi de l'aura que vous a donnée l'émission de télé Top Chef. C'est une forme de responsabilité qu'on doit endosser aussi quand on a cette lumière-là.
Oui, je me dis, j'ai énormément de chance d'avoir fait Top Chef, les gens s'intéressent beaucoup plus à mes projets. Donc en fait, je peux plus facilement dire plein de choses. Et après, je vais être honnête aussi, mais cette visibilité, ça apporte énormément de projets qui sont assez rémunérateurs. Et donc, en fait, je peux beaucoup plus dépenser du temps et de l'argent dans certains projets, qui sont des projets plaisir, avec une vraie dimension et un vrai sens, que d'autres chefs, parce que mes résidences sont viables économiquement, mais sont un peu décorrélées, parce que j'ai d'autres sources de revenus par-ci, par-là. Donc, moi, ça me permet de pouvoir investir dans ce genre de projet pour pouvoir dire des belles choses et partager des trucs un peu plus forts et beaucoup plus facilement.
On a dit aussi depuis le début de cette émission qu'on parle d'une cuisine simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une cuisine simple ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Une cuisine simple, c'est une cuisine avec peu d'ingrédients, efficace et juste. Et je trouve qu'il y a une... Il y a un concept d'innovation, ça s'appelle l'innovation jougade. Donc là, on traverse le monde direction l'Inde. Et c'est une façon d'innover de manière hyper économique d'un point de vue de ressources. Mais toutes les ressources, c'est-à-dire énergie, temps, matières premières, efficacité. Et je trouve que cette cuisine simple, c'est un peu mettre le doigt là-dessus, se dire comment je peux bien me nourrir, parce que ça, c'est important. De manière simple, efficace et réplicable. Parce que, attention, là, je vais tailler une veste au Palace parisien. Mais je me suis toujours dit, en fait, faire de la bonne cuisine avec un menu à 300 euros, heureusement que c'est bon. Mais je me dis, je préfère, moi, essayer de faire des menus vraiment pas chers, accessibles et bons. Et là, pour le coup, c'est un vrai challenge. Parce que on n'est pas 50 en cuisine, je suis tout seul. Il n'est pas 50 en salle, il est tout seul. Et donc ça demande à être efficace, organisé, réfléchir son menu et mettre en place plein de petites choses en amont. C'est pas qu'une question de cuisine, il y a toute une organisation un peu sous-jacente. C'est un vrai travail, mais il faut pas que les gens s'en rendent compte.
Par exemple, le menu. Chez Des Restes, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut manger?
En ce moment...
On le rappelle, d'un vendu alimentaire.
Alors, le truc le plus dingue, c'est qu'on va faire des œufs mayo avec 100% du gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'il y a plein d'œufs qui sont déclassés parce que trop petits, trop gros. Il y a des œufs trop gros. Moi, je suis content d'avoir une boîte qu'avec des gros œufs. Avec un aspect visuel pas conforme, un galbe un peu différent. Et donc ça, c'est des œufs qui, chez nous anti-gaspillage actuellement, c'est 1,42€ la boîte de 6 œufs. 1,42€, moi je trouve ça incroyable.
Alors que dans le commerce en général?
Ah mais c'est minimum 2,40€, mais minimum. Et donc quand je fais des œufs, ben genre quand les œufs sont plus petits, ben au lieu d'en mettre 1,5, j'en mets 2, voilà. Donc bon, on s'adapte, ça demande un petit peu plus d'adaptabilité, mais après ça se fait bien. La mayonnaise, les jaunes d'œufs, de la moutarde anti-gaspi parce que problème de packaging, un petit peu d'huile idem, enfin on gaspille de tout, toute l'année. Donc en fait, c'est des produits qui se trouvent. Et après, des œufs mayo, ça reste simple. Les blancs, moi, je les réutilise pour faire des gâteaux parce que on a trouvé des recettes un peu marrantes qui permettent de les passer. Et puis les gâteaux, ça se conserve bien. Et voilà, simple, efficace. Après, en face, on fait une petite soupe avec des fruits et légumes moches. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'est mixé. Et là, le vrai point, et que c'est important de dire, c'est que c'est des bons fruits et légumes. Et je trouve personnellement qu'ils sont limite meilleurs. Parce que c'est la nature, ils sont tous différents, il faut accepter les différences, ça c'est important. Et c'est des fruits qui ont grandi comme ils voulaient grandir, quoi. Et donc ils sont généralement à maturité, parce qu'ils ont été ramassés quand ils étaient mûrs, avec tous les autres, mais qu'en fait, eux, ils sont un peu à côté, quoi. Mmh. Et donc, généralement, chez Nantigaspi, on trouve vachement de produits issus de l'agriculture biologique, 100% français. Mais voilà, c'est ça aussi qui est important dans ce que je fais, c'est j'essaie toujours de trouver la mesure et de dire... je trouve que quand on est trop extrémiste, on n'est pas suffisamment juste et ça refroidit beaucoup de gens, alors que quand on montre que par de simples petits gestes, c'est pas compliqué de changer un tout petit peu. Et puis en plus, j'essaie toujours de montrer que il y a du bénéfice à faire ça, et le bénéfice, c'est pour le portefeuille.
En fait, est-ce que c'est aussi notre rapport à notre alimentation? Est-ce qu'on a du mal à se dire qu'un cuisine est simple, c'est bon, que un couscous, ça peut être très simple, ça peut être très bon, et on est bien en termes de gaspillage aussi, racontez-moi.
Je me dis, j'essaie d'inscrire ma cuisine dans le quotidien. Et pour moi, ce qui est important, c'est que les gens mangent bien tous les jours. L'objectif, c'est pas de se faire un repas incroyable le lundi et qu'en fait, toute la semaine, on mange n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de sens. Enfin, le corps, il a besoin qu'on l'alimente bien un peu toute l'année. Donc, je préfère montrer aux gens comment cuisiner simple, efficace, avec des produits justes pour pouvoir bien s'alimenter toute l'année. Parce qu'en fait, oui, il y a des gens qui aiment bien cuisiner, mais on n'a pas le temps... Et moi le premier, et je prends pas 4 heures tous les jours pour me faire des blanquettes de veau, mijoter des produits pendant 1000 ans. Mais par contre, j'attache une importance à mon alimentation. Et donc, comment j'arrive à trouver des recettes simples, efficaces, justes, que je peux faire un petit peu tous les jours, dans laquelle je tire une satisfaction et personnelle et gustative, et que j'ai envie de reproduire un petit peu tous les jours parce que je dois pas carchériser ma cuisine, que j'utilise pas 50 casseroles et que je fasse pas tourner 3 lave-vaisselle par jour pour une recette de 3 personnes.
Si économiquement on est bien, enfin voilà. Tout est coché.
Exactement. C'est un peu trouver le juste milieu.
Et le couscous en est un.
Ah mais le couscous dans la cuisine, moi j'aime bien la cuisine que je fais, c'est une cuisine très peu gourmande en main-d'œuvre, mais ça nécessite un peu de temps. Et donc, en fait, par exemple, le mijotage, c'est vraiment le facile pour donner du goût et pouvoir faire autre chose. Et donc, par exemple, je prends l'exemple d'un couscous de légumes. Alors là, de niveau coût, je pense qu'on...
Voilà.
Devant, il y a la soupe à l'oignon, mais après, sinon, c'est ça. Et la semoule, on fait chauffer de l'eau dans sa bouilloire, on met un petit peu d'épices avec sa semoule. L'eau sur la semoule, on met un torchon, on laisse gonfler tranquille, 15 minutes. On coupe nos légumes, on les fait revenir avec un peu de beurre, les épices, le bouillon. On laisse cuire ça pendant le temps qu'on veut, au moins 20 minutes quand même. Ça risque pas d'accrocher parce qu'il y a plein d'eau. ça risque pas de trop cuire. Et comme ça, ben, on peut faire d'autres choses. Voilà, lancer une machine, prendre sa douche, envoyer un ou deux mails qu'on n'a pas eu le temps d'envoyer, faire les devoirs des enfants.
S'occuper.
Je pense qu'il faut faire plus de 20 minutes. Mais ça demande une petite organisation en amont. Et si on arrive dans sa cuisine à 20h en se disant « qu'est-ce que je mange ce soir ?» et que le frigo est vide, on ne sait pas ce qu'on va manger, ben forcément c'est plus difficile. Mais une fois qu'on a trouvé des petites recettes simples, efficaces, ça déroule.
Une façon de faire aussi simple, efficace.
Ouais.
De quelques réflexes, juste 2-3 ingrédients, pas tellement
c'est
plus.
C'est ça. Et pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent, me disent « ah oui, mais Jean, est-ce que tu cuisines chez toi tous les jours ?» Mais en fait, je leur dis « mais cuisiner... Cuisiner, c'est pas forcément faire un plat 3 étoiles. Quand on fait un plat de pâtes, hacher une gousse d'ail et un petit peu de persil et faire une petite, enfin mettre un petit peu d'huile d'olive avec son ail, son persil, ça c'est cuisiner quoi. C'est pas la cuisine, ça reste des choses simples. C'est uniquement pour porter un petit peu de goût et de plaisir à ce qu'on fait quoi. Et faut pas se, je trouve que c'est important de se décomplexer sur ce que c'est la cuisine et que ça peut être quelque chose de simple qui peut procurer énormément de plaisir, de satisfaction de manière très simple.
Et en termes de desserts, souvent, en tout cas, dans les cultures où on mange des desserts, ce qui n'est pas le cas de partout, d'ailleurs, vous servez quoi au restaurant comme dessert ?
Alors, moi, je ne suis pas très sucre.
Ah, voilà.
Et j'essaye, et je trouve que ce n'est pas dingo de manger du sucre tout le temps, mais on est quand même dans un restaurant, il y a ce côté un petit peu plaisir, donc...
Puis les gens aiment bien.
Et puis les gens aiment bien.
Quand on va au restaurant, souvent, il y a quand même un dessert qui
un
va
petit
s'imposer.
Dessert. Ouais. Mais j'essaye vraiment, dans mes desserts, d'inclure beaucoup de fruits. Des choses qui sont peu travaillées. Et j'essaie vraiment d'éviter tous les produits qui sont ultra transformés et d'avoir un maximum de produits simples. Donc, par exemple, des laitages, beaucoup de fruits. Et après, on vient apporter un peu de gourmandise avec d'autres choses. Un granola, un gâteau, des pépites de chocolat. Mais avant tout, se concentrer plus sur le fruit. Et l'étage, qui sont des produits plus sains à mon sens.
Donc une petite compote avec un granola et on est bien.
Et on est bon.
Hein, parfait.
Après, moi, je mets un peu de beurre dans ma compote parce que c'est très, très bon.
Oui, mais bon, vous êtes gourmand. Merci beaucoup, Jean.
Merci.
Des restes, le restaurant est ouvert jusqu'au 30 mars prochain. On a hâte de découvrir, bien sûr, votre prochain projet. N'est-ce pas ?
On ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
Vous nous tiendrez au courant.
Avec plaisir.
Merci aussi à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Elle est disponible en podcast sur Pure Radio, votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour vos mots d'ailleurs ici et là sur les réseaux sociaux. On mettra les liens pour vous suivre. Jean, bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine, même table, même heure. Très bonne semaine à tous.